Le tilleul et le bourdon. Le lambeau surgit pendant la nuit en plein cœur des jardins du Saint-Clinal. C'était un vieux tilleul à l'écorce rugueuse recouverte de mousse. Son houppier large et arrondi avait 7 puissantes branches qui s'étiraient vers le ciel. Elles portaient de nombreux bourgeons et déjà quelques nouvelles feuilles vert tendre. Depuis son nid, situé au-dessus des jardins, l'écureuil Manon avait entendu son bois craquer quand le lambeau était sorti de terre. Il était aussitôt accouru au pied de l'arbre. « Bonjour, bienvenue dans le Saint-Clinal !» le salua-t-il joyeusement.
« Plaît-il ? »
dit l'arbre d'un ton un peu inquiet. « Je m'appelle Manon, je vous souhaite la bienvenue dans le Saint-Clinal. C'est le nom du cirque de montagne où vous venez de surgir. Vous verrez, il abrite une très belle forêt où vous pourrez rencontrer plein d'autres arbres. »
« Le Saint-quoi ? Mais où suis-je encore ? J'erre de lieu en lieu comme ça, à la dérive, complètement déboussolée. Arthur, où es-tu ? »
Un bourdon dodu sortit d'un petit trou du tronc.
« Qu'y a-t-il ?
Mais où sommes-nous encore ? Cet écureuil me dit que nous sommes dans un cirque. Je n'y comprends plus rien. »
« Mais non, c'est une image. Regarde autour de nous ces montagnes. » Elle nous encercle comme si nous étions au centre de l'arène d'un cirque. Tu ne te souviens pas de celle du cirque Zavata qui s'installait sur la place un été ?
Ah oui, avec le grand chapiteau et tous ces gosses surexcités qui harcelaient ces pauvres bêtes. Qu'est-ce que nous pouvions en rire avec le vieux Joseph ?
Le rire caverneux de l'arbre résonna dans son tronc.
Oh Arthur, que de bons souvenirs ! Je voudrais tant replanter mes racines dans la terre de notre chère Plaza de la Hierbas.
S'exclama le tilleul d'une voix vibrante.
Plaza des quoi ? Demanda Manon intriguée.
Plazas de la Hierbas, la place aux herbes en occitan. C'est la plus vieille place de notre ville. Elle date du Moyen-Âge, quand les humains s'y échangeaient des épices. Mais elle n'a plus grand-chose à voir maintenant.
Oh non, plus rien du tout même. Elle repose, paix à son âme, sous le béton d'un misérable parking. Même Jacinthe a été rasée, juste après qu'on me tronçonne si violemment en ce funeste jour de novembre 1995.
La voix du tilleul s'étrangla et ses feuilles frémirent doucement.
« Jacinthe, c'était la fontaine en pierre !»
expliqua le bourdon en voyant Manon froncer les sourcils.
« Elle était vraiment charmante, toujours fraîche et dispo, en train de fredonner ses mélodies riantes. Ah oui, pour ça, on ne pouvait pas rêver meilleure compagnie !»
Elle et le vieux Joseph, quelle compagnie !
Renchérit le tilleul.
Ils venaient tous les après-midi se reposer sur le banc près de nous, toutes ces histoires qu'il a pu nous conter.
L'arbre sembla enfin faire attention à Manon, maintenant qu'il était rassuré par ses bons souvenirs.
Au fait, je ne me suis pas présenté, moi c'est Souho. Mon nom courant c'est tilleul comme tous les autres, mais je préfère le surnom que me donnait le vieux Joseph.
Ça veut dire su avant occitan.
Parce que, monsieur, en beau mot printemps, il fait tourner la tête des humains à des mètres à la ronde.
Oh, n'exagère pas. C'est vrai que je sens bon, mais je ne suis pas le seul. Souviens-toi les lilas, le chèvrefeuille, et le parfum enivrant de la glycine et du seringa.
Et les humains n'auraient pas pu trouver une autre place où vous installer, plutôt que vous faire disparaître comme ça ?
Leur demanda Manon en fouettant l'air de sa belle queue rousse.
« Oh, tu sais, les places ne courent plus les rues chez les humains. Les centres anciens sont transformés en parkings et en galeries commerciales. Les jacinthes disparaissent à petit feu. »«
Bah oui, maintenant, chaque humain a sa petite bouteille d'eau portative. Alors, l'hospitalité de Jacinthe, merci, bonsoir. »
continua Arthur en voletant nerveusement.
« Et l'hospitalité du vieux banc en bois, n'en parlons pas. » Plus personne ne s'assoit, ils filent de leur voiture au magasin et des magasins à leur voiture, les bras chargés de paquets. Alors les bancs, vous savez.
Les amis de Joseph, qui venaient causer avec lui, ont regretté le vieux banc qui accueillait les passants dans mon ombrage. Mais c'était qu'une minorité vieillissante.
Non, Sio, il y a quand même aussi ceux qui jouaient sur la place quand ils étaient enfants. C'était un terrain de jeu formidable pour eux. Le petit-fils de Joseph, par exemple, Estève, regrette aussi la Plaza de Hierbas, surtout pour ses propres enfants qui ne peuvent plus jouer dans les rues tant on est bousculé par les voitures maintenant.
Oui, ils se souviennent encore de nous. C'est grâce à eux qu'on n'est pas tout à fait mort. Tiens, justement, pas plus tard qu'hier, Estève a pensé à nous en se contorsionnant entre les voitures garées. Il se disait qu'il allait tout faire pour empêcher que la place du kiosque finisse pareil. C'est la dernière place piétonne du vieux centre.
Le mistral souffla dans les rameaux du tilleul et Arthur se posa à l'orée de son trou, fatigué de voler.
Vous devez être fatigué après ce long périple jusqu'au Saint-Clinal. Je vais vous chercher du bon purin d'ortie.
Ah, volontiers !
S'exclama le tilleul.
Je suis en pleine repousse de mon feuillage et ça me fatigue beaucoup. Regardez-moi encore toutes ces feuilles prêtes à se déplier.
Manon rapporta deux arrosoirs pleins de purin d'ortie et les déversa lentement au pied du tilleul. Comme le lambeau venait de surgir, il n'était pas encore bien enraciné dans le sol. Chaque matin, l'écureuil prit l'habitude de venir s'occuper du tilleul et du bourdon, et les deux compères reprirent des forces rapidement. Un soir, Suo fut pris d'une profonde crise de nostalgie. Il répétait en larmoyant à qui voulait l'entendre qu'il n'était désormais qu'un déraciné, condamné à l'errance éternelle, que la Plaza de las Hierbas était sa seule demeure sur cette planète et qu'il ne se remettrait jamais de l'avoir perdue. Arthur avait beau bourdonner sur tous les tons que non, ça n'était pas vrai, il n'était pas plus rien, il restait un beau souvenir pour quelques humains, mais rien ne semblait calmer sa peine. Les craquements de son bois en sanglots résonnèrent dans tout le Saint-Clinal, effrayant les corbeaux noirs qui s'envolaient des falaises. Émus, les animaux décidèrent d'allumer le feu de la veillée au pied du tilleul pour qu'il puisse leur raconter les histoires qu'il avait apprises pendant toutes ces années sur la place aux herbes.
« Vous savez, je ne suis plus tout jeune maintenant, » commença-t-il à peine la première brindille enflammée. « Quand on m'a tronçonné, j'avais 106 ans. J'aurais pu vivre encore bien plus longtemps, comme certains de mes congénères qui ont plus de 1000 ans. »«
1000 ans ?» s'exclama Chafouin, ses petits yeux en amande écarquillés.
Les animaux se regardèrent, l'air abasourdi. Cousepo le pic noir claqua du bec l'air concentré, puis affirma.
« Je viens de faire un rapide calcul. En prenant en compte les durées de vie moyennes de l'écureuil, du castor, du chamois, du lombric et du pic noir, nous arrivons à une moyenne de 9 ans. Vous vivez donc 100 fois plus vieux que nous. C'est stupéfiant. »« Oui, mais vous savez, il y a plus vieux que moi. Les ifs dépassent 2000 ans et certains pins 4000 ans. Parmi les êtres vivants hors de l'eau, nous autres les arbres, nous faisons partie de ceux qui s'alanguissent le plus longtemps sur la terre. »
« Et raconte-leur l'épopée de ta plantation !»
s'écria le bourdon en dansant sur place au-dessus des flammes.
« Ah oui, quelle épopée ! J'ai été plantée en 1889 par l'instituteur du grand-père de Joseph, quand il était en primaire. C'était pour la commémoration du centenaire de la Révolution française. Les enfants ont gravé sur une plaque devant mon tronc. Mai 1889, cet arbre de la République a été planté en mémoire des combattants de la liberté tombés à la Bastille. Depuis 1789, la Révolution avait déjà été piétinée par une révolution monarchique et deux empires. Alors quand Bonaparte est enfin tombé le 4 septembre 1870 et que la Troisième République a été proclamée, je ne vous raconte pas la joie dans les cœurs.
Leurs petits yeux brillant dans la lueur des flammes, les animaux écoutaient avec passion les péripéties de l'histoire des humains.
Comme me l'a raconté le vieux Joseph, son grand-père n'aurait pas été à l'école avant ça. Elle est devenue laïque, obligatoire et gratuite pour tous les enfants de France en 1881 grâce à la République. Il n'aurait pas non plus eu le droit de participer à des réunions publiques et à son syndicat ouvrier.
Et raconte quand les ouvriers venaient. Fiafa Arthur.
Après ma plantation, chaque 4 septembre, tous les ouvriers de la ville m'apportaient des immortelles et chantaient la carmagnole bras dessous autour de mon tronc. Et je ne vous parle pas des fêtes du 14 juillet qui attiraient sur la place tous les villages alentours. On me décorait de lampions colorés, on dressait de grands banquets et un orchestre venait jouer au centre de la place. Et ça dansait et ça chantait jusqu'à tard dans la nuit.
Jacinthe ne connaissait pas de répit. Des dizaines de bouches venaient la lamper. Et quand la place se dépeuplait un peu, vers 2 heures du matin, des amoureux venaient se bécoter sur son rebord. Elle nous en reparlait pendant des jours après. Ce qu'il avait dit, ce qu'elle avait répondu, comment avait dû continuer leur amour. Ah, cette Jacinthe, une vraie romantique.
Les humains dansent souvent comme cela ?
Demanda Rosie, qui adorait les bals et qui déplorait si souvent que les animaux du Saint-Clinal se contentent de veiller au feu de bois.
Quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de fêtes populaires. Mais peu à peu, elles ont disparu. Je me souviens du dernier 14 juillet. C'est le seul moment de l'année où il y avait un peu de rassemblement sur la place. Mais l'ambiance n'est plus la même, comme si les humains avaient perdu conscience de ce qu'ils ont en commun.
Pourquoi n'y a-t-il plus rien dont ils ont à prendre soin ensemble ? Demanda Manon intriguée.
Ils ont pourtant beaucoup de choses à soigner ensemble. Leurs histoires et leurs chansons, leurs terres nourricières, leurs lois de justice, leurs anciens, leurs abeilles et leurs arbres. C'est à croire qu'ils ne savent plus qu'il faut en prendre soin pour que ça dure.
Une chouette ulula quelque part dans la forêt. Le tilleul reprit.
Le vieux Joseph me disait souvent « Tu sais, Souho, on ne se rend plus compte. » Il pensait à toutes les luttes de son grand-père et aux siennes quand il faisait sa bibliothèque itinérante. Il revenait de ses tournées un livre sous le bras et me lisait quelques passages qu'il aimait. Quand il refermait son livre, il me disait « Tu sais, Souho, la culture humaine est comme toi. Elle a des racines et de nombreuses branches. » C'est un être sensible comme toi qui a besoin de nourriture et d'échanges vivants, sinon elle s'assèche et dépérit.
Moi, j'ai remarqué que dans leur ville, ils se fichent comme de leur première chemise des bourdons et de nos cousines les abeilles. Les derniers anciens qui faisaient leur potager ont disparu, les bonhommes verts de la mairie coupent tout ce qui bouge et plantent au compte-gouttes quelques arbres qui ne donnent aucune fleur, alors merci pour nous. On n'a plus rien à se mettre dans la trompe.
Mais le pire, c'est que ça va leur retomber dessus un de ces jours. Parce que qui sait qui féconde 80% de leurs fruits et de leurs bons légumes ? Hein ? Qui sait ? Les poussières de béton, peut-être ?
C'est nous, les pollinisateurs !
S'écria Azur le papillon en venant volter avec Arthur au-dessus des flammes. Alors que la prairie sérupine commençait à se couvrir de coquelicots et de bleuets, le temps de libérer le lambeau était venu. L'arbre avait certes des racines, mais il avait, comme tous les lambeaux qui surgissaient dans le Saint-Clinal, cette capacité à se mouvoir quand il avait enfin repris des forces. Lorsque Raguse le castor eut coupé sa racine, le tilleul alla se dégourdir dans les allées du jardin. Il se mit très vite à gambader comme un cabri et alla saluer les arbres de la forêt. Il parla longuement avec un être qui lui raconta comment était la vie sauvage de forêt, car Suo ne connaissait que la vie citadine au milieu des hommes. Le être lui confia son rêve de pouvoir marcher un jour comme lui, histoire de voir un peu du pays. Ce n'est pas que c'est lassant d'être toujours planté au même endroit, je connais tous les mystères de la vie souterraine par mes racines et beaucoup de choses de la vie des hauteurs par mon houppier, mais ce serait quand même un plus. Quand il arriva aux abords de la prairie sérupine, Arthur sortit soudain de son trou, attiré par une odeur sucrée irrésistible. Face à eux, des rangées de cerisiers chargées de fruits mûrs. Le bourdon fonça trompe la première vers une belle cerise rebondie, l'entailla légèrement avec son dard et aspira goulûment le jus sucré.
Quel délice si tu savais !
Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Si tu savais comme il était bon le purin d'ortie que Manon m'a donné la dernière fois.
Ah, me parle pas de purin d'ortie pendant que je suce une délicieuse cerise. Tu veux me gâcher mon festin ou quoi ?
Très bien, je ne dis plus rien alors.
Le tilleul s'éloigna pour aller tremper ses racines dans la Vèbre, la rivière riante qui traversait le Saint-Clinal. Arthur continua encore longtemps à volter de cerise en cerise en chantonnant un air léger.
Quand nous en serons au temps des cerises, et guerre aux signoles, et merle moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur.
Un mois plus tard, Suo était en fleurs. Les cils délicats qui pointaient entre les pétales blanches étaient prises d'assaut par des nuées de papillons, d'abeilles et de bourdons. Arthur se tenait jalousement aux premières loges en bourdonnant bruyamment. Le tilleul s'était immobilisé au cœur de la prairie sérupine pour faciliter le travail de pollinisation de ses chers adorateurs. C'était l'endroit du synclinal qu'il préférait, avec tous ses coquelicots qui lui rappelaient le vieux Joseph. Un après-midi, Mano vint se reposer dans son ombre. Suo lui dit alors
« Le vieux Joseph avait la nostalgie des champs de blé de son enfance. Ils étaient remplis de coquelicots au printemps. Il trouvait ça fantastique. » Mais les coquelicots ont déserté les champs avec les poisons que les humains ont mis dedans.
Nous allons te donner des graines de coquelicots du synclinal. Si tous les pollinisateurs s'y mettent, nous ferons une bonne récolte en juillet.
Ah, volontiers, merci.
Mano contempla le ramage dense de Suo avec ses jolies feuilles en forme de cœur. Il huma l'air à plein poumon.
Mais c'est vrai que tu sens vraiment bon. Tu sens comme le bon miel.
Les humains aussi disaient ça souvent quand ils venaient récolter mes fleurs pour leur tisane.
« Des tisanes, qu'est-ce que c'est ?» demanda Mano en lissant les plumes fins de ses oreilles.
« C'est simplement de l'eau bouillante dans laquelle ils mettent des fleurs et des feuilles séchées pour que ça lui donne bon goût. Ils disent aussi que c'est bon pour leur santé. Mes fleurs à moi, par exemple, les aident à dormir. »«
Pourtant, tu n'es pas particulièrement zen comme loustique. »
fanfaronna Arthur en redescendant du houppier, la tête enfarinée de pollen. Il avait deux petites pelotes jaunes accrochées au milieu de ses pattes arrière. C'étaient ses sacoches à pollen pleines à craquer.
« Il faudrait qu'on essaye la tisane à la veillée ce soir !» s'enthousiasma Mano.
« Ça ferait peut-être du bien à Chafouin. Il est complètement hystérique en ce moment. Il ne se souvient plus où il a caché ses réserves de noisettes de l'année dernière. » Alors il retourne la forêt dans tous les sens, creuse le moindre endroit suspect, mais il n'a rien trouvé. Il n'en ferme plus l'œil de la nuit, le pauvre.
Un vent chaud se leva, caressant les trois compères qui contemplaient en silence les coquelicots tangués sous le soleil.
Arthur, tu veux bien nous réciter la poésie que le vieux Joseph t'a apprise? Ce serait si beau maintenant. Oh oui, s'il te plaît,
s'exclama le tilleul. Le bourdon alla se poser à l'orée de son trou et se mit à déclamer.
Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière.
Quand la capsule des coquelicots commença à sécher, les animaux récoltèrent leurs graines. Ils en remplirent une calebasse entière qu'ils offrirent à Suo et Arthur.
« Merci beaucoup, mes amis !» dit le tilleul d'un ton ému.
« Merci à vous de nous avoir appris de très jolis poèmes et la technique des tisanes !» continua Chafouin. « Maintenant, je dors comme un loir !»
Estève a rêvé de moi cette nuit. Il avait besoin de notre force pour convaincre d'autres gens, car demain c'est la réunion publique qui décidera du destin de la place du kiosque.
« Oh, mais c'est important, il faut qu'on aille le soutenir !» s'exclama Arthur.
« Si l'esprit d'Estève vous rappelle, c'est que vous avez retrouvé suffisamment de force pour repartir, » continua Mano. « Il y a un puits au cœur de la forêt qui vous permettra de regagner le monde des humains. C'est l'heure d'y retourner, mes amis, vous allez nous manquer. »
Le tilleul et le bourdon dirent adieu à leurs hôtes en chantant une dernière fois le temps des cerises que tous les museaux et toutes les mandibules fredonneront à coup sûr chaque fois que le joli mois de mai reviendrait dans le synclinal. Qui a dit que les lieux n'avaient pas d'âme ?